Vous écoutez
RMC.
Il est minuit 33 en France, il est 18h33 ici dans le studio de l'After à New York. Daniel Riolo, Florent Gautreau sont là et le match Uruguay-Cap-Vert est toujours en cours. On est à la 33e minute, Jérôme.
Ouais, exactement. Et la Céleste avec son magnifique maillot bleu ciel, peut-être l'un des plus beaux maillots de cette Coupe du Monde, est toujours mené 1-0 après 33 minutes de jeu. Le coup franc magnifique de Kevin Pina, Lenini, c'est son surnom. Le joueur de Krasnodar, coup franc des 30-35 mètres, à ras de terre, qui a battu Fernando Muslera. Les Uruguayens qui tentent leur chance hein, de loin. On sait que c'est l'une des spécialités, l'un des points forts de Federico Valverde, le capitaine de l'Uruguay. Là, il vient encore de tenter sa chance de 25 mètres. C'est passé largement à côté. D'ailleurs, il en a enlevé sa chaussure pour mieux la remettre derrière. Et on a vu déjà Marcelo Bielsa commencer à pester, à râler. Faut se rappeler quand même que l'Uruguay est une très grande nation du foot et que en 2022 ils se sont fait sortir dès la phase de poule. Ça ferait désordre quand même de sortir là aussi, même si en cas de défaite il y aura pas.
L'Uruguay a une histoire, c'est vrai, mais ils n'ont pas toujours été bons en Coupe du Monde. Hein. Et c'est quand même un tout petit pays qui
4 millions d'habitants.
Ils sont forts quand ils ont des bonnes générations, ce qui leur est arrivé.
En phase de poule, Daniel. Hein.
Oui, mais il faut qu'ils aient des bonnes générations aussi. Hein. C'est pas non plus là, oui, dans ce groupe-là, oui, ce serait une contre-performance pour eux. Ils le vivraient comme ça, ça c'est certain.
Bon, après, c'est sûr que t'as plus Suarez, t'as plus Cavani.
Voilà, on a eu des meilleures époques pour l'Uruguay.
Hein. C'est Canobio. Hein.
Ouais.
Mmh. 1-0 pour le Cap-Vert, on se retrouve dans quelques minutes. Aurélien Tirsin nous rejoint. Aurélien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut les amis.
Salut. Aurélien qui suit le Sénégal, parce que demain il y a le match Sénégal-Norvège qui concerne le groupe de la France. Et donc tu étais à la conférence de presse de Pape Thiot. On a beaucoup parlé du Sénégal ces derniers jours et des problèmes d'organisation, d'hôtels, de repas, de contrats. Donc avant de parler du sportif là, Pape Thiot a parlé de tout ça. Donc on va même pouvoir l'écouter je crois, donc on te laisse dérouler.
Bah Gilbert, de toute façon, c'est ce qui nous a tous intéressés quasiment, parce que sur le sportif, on en reparlera un peu plus tard, mais c'était assez plat, évidemment, faut prendre des points. Mais alors, est-ce que Pape Thiot a enfin signé son contrat, puisque ça fait 5-6 mois qu'il n'est plus sous contrat? Il nous rassure, visiblement, Pape Thiot, tout est réglé, on l'écoute.
C'est réglé, c'est vrai, ça a pris beaucoup de temps. Et la seule chose que j'avais à éclaircir, ça n'a jamais été un problème d'argent, mais plutôt de principe et de respect.
Ouais, parce qu'on parlait de divergence sur la somme du contrat entre 30 millions de francs CFA, 50 millions de francs CFA. Donc là, il nous assure que c'est pas un problème d'argent, mais au pays, au Sénégal, parmi les journalistes, on n'est pas non plus tout à fait sûr que ça soit réglé à 100% entre la Fédé et Pape Thiot, parce que même si Pape Thiot a signé, c'est peut-être pas signé de l'autre côté. Et tu parlais de l'atmosphère ambiante autour de l'équipe des Sénégalais qui ne sont pas contents de leur hôtel, de la nourriture qu'ils ont à disposition. Le chef cuisinier Fabrice Hawkins nous le disait, n'a pas fait le voyage avec eux. Eh ben tout ça participe à une atmosphère un peu particulière. Mori Diaw, qui est venu en conférence de presse, qui est le gardien remplaçant, a tenu aussi à écarter ça et a dit que le patriotisme l'emporte avant tout. On l'écoute, ce n'est pas un problème ce qu'il y a autour de l'hôtel des Sénégalais.
Ça, c'est des problèmes qui sont réglés en interne. Je pense que ici vous avez pas besoin d'être au courant de ce qu'on se dit en interne. Ça veut dire que on a un groupe de joueurs professionnels qui savent faire la part des choses. On est là pour représenter notre pays, donc c'est la chose qu'on est venu faire ici et qu'on va essayer de faire du mieux possible demain. Et toutes les histoires de problèmes ou de polémiques, il y aura rien qui va nous faire perdre la tête par rapport à notre objectif commun.
Bon, pour ceux qui maîtrisent pas le change avec le franc CFA, 30 millions de francs CFA, ça fait 45 000 euros pour un salaire de sélectionneur. Voilà, aussi ouais. C'est ça en l'occurrence. Bon, donc en fait, on a quand même admis.
C'est quand même fou de régler ce genre de problème après un match de Coupe du Monde, alors qu'on parle d'une sélection qui est parmi les meilleures du continent, qui sort d'un titre à la CAN, et que le sélectionneur se retrouve sans contrat et une équipe qui a l'air un peu déstabilisée ou en tout cas qui ne parle pas que de foot.
Bah, et Daniel, ça rendait fou les journalistes sénégalais parce que ça fait 10 ans justement que la Fédé est très bien gérée et là on a l'impression qu'on retourne un peu 20-30 ans en arrière et qu'il y a ces fameux problèmes. Alors là c'est pas des primes en tant que telles, même s'il y a eu aussi des débats autour des primes des joueurs sénégalais, mais là on a l'impression que voilà, c'est un espèce de bordel ambiant qui on pensait faisait partie du passé et malheureusement c'est pas le cas.
Alors je rappelle hein, la liste des problèmes. Hôtel, les joueurs sont pas contents de l'hôtel, certains joueurs font venir de leur repas de l'extérieur. Donc, je sais pas à quelle plateforme ils font appel, ou je sais pas s'ils ont un livreur personnalisé, j'en sais rien. Enfin, ça c'est quand même assez hallucinant. Problème d'organisation générale. On reproche notamment à certains dirigeants de la Fédé d'avoir fait venir, on va dire, une famille élargie. tu vois, pour assister à la Coupe du Monde aux frais de la Fédé. Et donc Paptieu, alors Paptieu, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que son contrat s'arrêtait à la fin de la CAN, donc la fin de la CAN, on est mi-janvier. Là, on est fin juin. Et en fait, le Sénégal a réussi finalement en 48 heures à lui faire signer ce contrat qu'ils n'ont pas fait signer depuis mi-janvier, uniquement parce que finalement l'information a pris les proportions dans les médias internationaux ces dernières heures, et que au plus haut niveau de l'État sénégalais, on a dit maintenant on va arrêter d'être ridicule, et ils ont dit à la Fédé maintenant vous allez faire ce contrat. Donc c'est quand même terrible. Bon.
Oui, pourquoi Paptieu a eu besoin d'attendre le début de la compétition pour en gros faire fuiter les informations journalistes,
puisque Paptieu,
gros,
il a craqué, c'est lui,
qui l'a, c'est lui qui l'a fait dans un but bien précis. Mais il avait qu'à le faire avant. Et pourquoi il a pas fait il y a un mois?
Bah, peut-être qu'il y a
savait, hein, ça bruissait avant même le début de la Coupe du Monde, hein, Daniel. Ça,
oui, non, mais là,
un journaliste sénégalais qui a sorti l'information, mais trop tard, là,
Après le match contre les Bleus, finalement, il fait en sorte que l'information en sorte qu'il n'est pas content, qu'il y a des problèmes et tout ça. Je trouve que c'est des manœuvres des deux côtés qui sont. Si j'étais sénégalais, je dirais, mais on se concentre sur la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que ça va pas, quoi. Chacun poursuit ses intérêts personnels, du coup. Oui. Même si tout ce que dit Paptieu est défendable, il a le droit à avoir un contrat, il manquerait plus que ça. Mais là, tu le fais maintenant, après un match, après une défaite. Après, peut-être qu'il a eu peur que si ça tourne mal pour le Sénégal, il ait jamais de contrat, il se fait jamais payer pour ce qui s'est passé.
Mais il est pas payé depuis mi-janvier, quand même.
Ouais, c'est un peu fou.
Moi, je suis plutôt de son côté, je dirais, au bout d'un moment.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
T'es obligé de faire
et surtout qu'il met le côté patriotique en avant, justement.
Il a été obligé d'en venir à faire fuiter tout ça, parce que rien ne bougeait.
Non, mais il aurait très bien pu dire à deux semaines de la Coupe du Monde, au moment du stage, je ne monte pas dans l'avion pour les États-Unis, j'ai pas de contrat.
Il a menacé.
Mais il aurait dû aller au bout.
Bon. Alors après, il faut se méfier, parce qu'après, ça peut se retourner contre toi. Parce que après, on veut dire, oh, mais regardez, c'est un traître, il veut pas venir défendre le pays.
Oui, je sais que c'est pas facile. Ouais, ok.
Bon, voilà pour les affaires logistiques. Donc les choses rentrent dans l'ordre, même si, comme tu le dis, tout ne semble pas réglé.
Maintenant, il faudrait retrouver un bon niveau sur le terrain.
Exactement.
Ben oui. Parce que la défaite contre l'équipe de France a fait mal, notamment la deuxième période. Bon, on l'a tous vu, a priori, j'imagine, les Sénégalais ont perdu le fil. Et le match contre la Norvège est déjà très 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 important, parce que les Norvégiens ont écrasé l'Irak 4-1. Donc là, si tu perds le match contre les Norvégiens, va falloir s'accrocher pour être parmi les meilleurs troisièmes, même si ce sera encore une possibilité pour les Sénégalais. Et puis en face, il y a un homme qui fait très peur, bien sûr, c'est Erling Haaland. 57 buts en 51 sélections avec la Norvège, c'est quasiment le meilleur de toute l'histoire, avec un ratio pareil en équipe nationale. Mais Paptieu assure que ses défenseurs ont largement le niveau pour faire face aux attaquants norvégiens. Paptieu, le sélectionneur du Sénégal.
Il n'y aura pas de plan anti-Haaland, il y aura un plan anti-Norvège. Ça c'est sûr, on sait que c'est un grand attaquant, mais après nous, on a des défenseurs de très haut niveau, qui ont fait des compétitions de très haut niveau, qui ont dû se confronter à des attaquants de ce calibre. Et donc je pense qu'aujourd'hui, pour nous, l'objectif, c'est d'aller chercher ces points. Maintenant, quand on est en face d'un joueur comme Haaland, qui est très efficace, c'est sûr qu'il faut faire attention. Mais nous, pour nous, le plus important, c'est la Norvège.
Voilà, donc il fait Koulibaly va jouer ou Mamadou Sarr va jouer?
C'est ce que j'allais te dire, Gilbert. A priori, Koulibaly aurait quand même les faveurs du sélectionneur. Il faut voir son état physique.
Quand même, hein.
Exactement, voilà, il va falloir être plus costaud, mais quand il faisait référence aux défenseurs habitués au très haut niveau, il faisait référence à Niakate, à Kalidou Koulibaly ou à Idrissa Gueye, mais tout ça, ce sont des joueurs vieillissants, et c'est vrai que Koulibaly, il va falloir se mettre un sacré coup de pied aux fesses, parce que contre l'équipe de France, c'était compliqué.
C'est vrai que le premier match a été décevant, parce que par rapport à toutes les sélections dont on parlait, notamment la Côte d'Ivoire, qui a vraiment été impressionnante, même hier, malgré la défaite. Et c'est vrai que quand tu as des joueurs et des statuts comme ça, là tu te fais balayer, en fait. Tu vois, ça pardonne pas. Évidemment, on a parlé de CR7 en long et en large, mais Koulibaly, c'est pareil. Il est revenu, il n'était pas prêt, ça se voit, et c'est pas possible. Tu vois, contre n'importe quelle équipe là dans cette Coupe du Monde, la preuve, là, on est en train de regarder le Cap-Vert contre l'Uruguay, tu peux pas te permettre de faire ce genre de choses. Donc c'est là que t'as la limite de l'autorité, même du sélectionneur vis-à-vis de son vestiaire, hein, parce que je sais pas pourquoi.
Mais c'est l'histoire des sélections. Rappelez-vous de Desailly à l'Euro 2004, par exemple.
Bien sûr.
C'est un enfer.
En équipe de France.
Bah, et après, il y a aussi une petite jurisprudence. Mustapha Embo, là, le joueur du Paris FC, qui avait été sélectionné, qui a été mis sur le terrain lors d'un match amical. Alors, je crois que c'est contre les États-Unis. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'était les États-Unis. Il a été catastrophique pendant une mi-temps et il l'a carrément écarté du groupe des 26. Donc aussi maintenant, il a peut-être peur aussi de faire des essais, même si Mamadou Sarr a priori possède un peu plus d'expérience, mais il a très peu de sélection. Donc voilà, et il s'appuie sur ce qu'il sait faire depuis quelques moments.
Légalisation. L'égalisation pour l'Uruguay, elle est signée de Maxi Araujo, le joueur du Sporting. Le ballon a rebondi d'abord sur le poteau, ça partait d'un centre et Luis Suarez qui est en tribune, lui le local puisqu'il joue à l'Inter Miami, eh bien applaudi dès demain. Voilà la réaction des joueurs de Marcelo Bielsa, ça part d'un centre de la gauche, une première tête repoussée par le poteau et le ballon qui revient sur Maxi Araujo qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond du filet et battre donc Vozinha. L'égalisation de l'Uruguay, un partout face au Cap-Vert, 44 alors, minutes de jeu et c'est consécutif aussi à un moment.
Voilà, regardez la scène. Si vous avez Gilbert, regarde la scène, elle est extraordinaire.
C'est une scène uruguayenne.
Non, mais quand le joueur uruguayen qui était en train d'aider le Cap-Verdien qui visiblement avait des crampes a vu que l'arbitre n'avait pas arrêté le jeu, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les actions qui se développent malgré tout. Il a vu que le jeu continuait, il a lâché la jambe du Cap-Verdien de bon, écoute, je m'en fous de toi maintenant. Et je sais, si c'est lui qui a marqué derrière,
non,
c'est
pas lui.
C'est pas lui.
Alors non, c'est pas lui.
C'est extraordinaire
la
scène.
Il est pas. C'est le 21. Pas non plus Daniel à la retombée. Hein.
C'est le 21 c'est un joueur, qui s'occupait du Cap-Verdien qui avait les crampes.
C'est exactement. C'est Vignas qui s'occupait.
Mais tu l'as vu comme il a lâché ça, comme il l'a.
Conjo,
il était en train de l'aider. Qu'est-ce que t'as, ça va pas.
Et en fait, c'est Sidney Lopez Cabral, donc l'arrière gauche, qui d'une tête en fait dans un duel aérien envoie le ballon sur son propre poteau et derrière ça rebondit, ça revient sur Maxi Araujo. Donc ça fait un partout entre l'Uruguay et le Cap-Vert. Il y a un peu de réussite pour les Uruguayens, mais c'est pas non plus totalement immérité au regard de la première période.
Oui, il manque un joueur parce que le pauvre était par terre, il avait mal à la jambe, le Cap-Verdien, l'autre après, il était en train de vouloir le soigner.
Il s'est relevé à fond pour aller faire le pressing, mais c'était déjà trop
après,
tard.
Après, Vozinha n'est pas totalement irréprochable sur son arrière.
Ah. Le point faible, Vozinha.
Bah non, mais non, pas le point faible.
Un million de followers en
moins. Il va la chercher, ce qui est fort, mais il la remet à axe, et donc ça donne évidemment après l'occasion de but à l'Uruguay.
Voilà, le fair play ultime, ça aurait été que l'Uruguayen reste à tirer la jambe du gars pendant que son équipe marque.
Ah non, j'adore comme il lui a lâché la jambe. Genre, écoute, je te laisse là, mon vieux, parce que là, il y a un truc qui se passe.
Il y a une autre info, c'est d'avoir une crampe à la 40e minute.
Pas faux.
Bon, on ne sait pas. On sait pas si vraiment c'est une crampe.
Ah là,
il y a, ouais, la façon dont il lui prend la jambe.
Quand même, tu vois, il lui soignait pas.
Il peut y avoir du mytho, la crampe mytho.
Non, mais je pense surtout
parce qu'il s'est relevé aussi le Cap-Verdien, c'est ça, vrai.
Bah, je pense quand même que les gars ils donnent tout et que toi ils ont pas forcément la même état de prépa et voilà.
Revenons au Sénégal. Je sais plus ce que tu nous racontais du coup, Aurélien. Je crois que tu parlais de.
Justement, je parlais des tests défensifs de Pape Thiaw et ça a pas marché avec Mustapha Embo alors qu'il aurait pu avoir du temps de jeu. Il s'est fait écarter du groupe des 26 au dernier moment. Donc voilà, il joue la carte de la sécurité avec Koulibaly, Niakate et puis donc les milieux de devant, Lamine Camara, Pape Gay et Idrissa Gana Gueye. Donc c'est vrai que ça va être compliqué de faire changer au dernier moment, surtout contre une équipe comme une équipe contre la Norvège. Au dernier moment, Pape Thiaw il va garder les mêmes choix a priori.
Merci Aurélien. Et donc demain ce sera sur RMC, demain soir 21h heure locale, donc 3h du matin hein, le match du Sénégal. C'est 20h demain je crois.
20h c'est 20h heure de New York, ouais. Donc 2h du matin en France.
Et en l'occurrence ça fait
et des pluies attendues Gilbert aussi. On espère que ça sera tranquille
quand
même au stade de New York.
Ah oui, bah oui, le coup des orages, on va surveiller demain. Ça marche, merci Aurélien. La fin de la première mi-temps. Il reste quoi, 3 minutes là dans le temps additionnel. On va les faire ensemble, Jérôme, entre l'Uruguay et le Cap-Vert.
Ouais, et en fait, il est furieux en fait, Telmo Arcanjo, donc l'attaquant, l'ailier droit de Vitória Guimarães, parce que c'est lui hein, donc qui se fait soigner par Vinhas, donc l'attaquant, enfin qui se fait aider, on va dire, à s'étirer. Et visiblement, il y a un problème musculaire. Et là, en fait, il y a une sorte d'incompréhension. Il vient d'être remplacé par De Roy Duarte, mais il est pas content d'être remplacé, pas content de l'arbitrage parce qu'il estime que le jeu aurait sans doute dû être arrêté. Mais non, le jeu il se poursuit.
On n'arrête plus le jeu pour ce genre de truc, Jérôme. Tu le sais bien.
Exactement, ah ouais. Exactement, et c'est une bonne
c'est
chose.
C'est déjà bien que le Uruguayen soit essayé de lui filer un coup de main avant de lui lâcher la jambe. Là.
on a vu tout le fair play de Federico Vinhas, l'attaquant du Real Oviedo là-dessus.
Qui a eu sa limite quand il a vu que le jeu continuait.
Exactement. Donc un partout, 48e minute de jeu, il en reste deux dans cette première période dans le temps additionnel. Et là, il y a peut-être une offensive justement en faveur des Capverdiens. Les Requins Bleus là qui partent sur le côté gauche avec Cabral et finalement l'ouverture derrière de son coéquipier, elle est beaucoup trop longue et Arcangeau, il est toujours, c'est incroyable, il est toujours. Mais attends, mais c'est pas lui qui a été remplacé, mais c'est quoi cette histoire? Ils l'ont pas fait rentrer tout à l'heure de Roy Duarte. Je pensais qu'il l'avait fait entrer en fait, mais non, il revient sur la pelouse. Attends, ils sont combien? 4 7 8
Non,
9,
quand même
10.
Pas.
Non, c'est bon.
Quand même pas.
Non mais c'est incroyable parce qu'il était prêt à entrer en fait de Roy Duarte. Je pensais qu'il était entré en jeu, mais non, ça va.
Ils ont annulé le changement en fait.
Ils ont annulé le changement, mais c'est quand même problématique là, les gars. C'est problématique.
Ouais, mais il était pas, blessé, mais pas au point de sortir.
Ah ouais, mais bon, tu te retrouves en infériorité numérique pendant une minute. T'aurais pu le payer encore parce que déjà que ça leur a coûté un but. Mmh. Bon, un peu bizarre tout ça. Mais on va mettre ça sur le compte peut-être de l'inexpérience de ces moments-là. En attendant, les joueurs de Marcelo Bielsa, eux, sont à l'attaque avec sur le côté droit Guillermo Varela. Et on est reparti de l'autre côté, à gauche maintenant, avec Mathias Oliveira, avec Juan Manuel Sanabria qui tente de servir dans ce passe de réparation. C'est bien joué avec ce ballon d'attaque pour Maxi Araujo, le buteur. Et finalement, il a été repris par la défense capverdienne. D'ailleurs, j'étais surpris de ne pas voir Logan Costa. Vous vous souvenez, l'ancien Toulousain qui avait marqué en finale de la Coupe de France? Mais il n'est même pas titulaire dans cette équipe-là.
Logan Costa qui roulait en Dacia. C'était bizarre.
Oui, bien sûr. Mais ça, il faut avoir une référence automobile là-dessus.
Ouais.
C'est Pico Lopez, le défenseur de Shamrock.
Bah, Darwin Núñez ne joue pas non plus. Genre, on aurait pu s'attendre, ce gars-là a eu une cote à un moment. On aurait pu penser que s'il était titulaire avec la Céleste, il ne l'est pas.
Il avait débuté le premier match.
Ouais, avec Eric Renaud.
Ouais, c'est vrai.
Gilbert.
Ouais. Il y a un Anglais qui s'appelait Bentley aussi.
Exact.
Je sais plus où il joue, mais.
Allez, le jeu qui continue pour ces dernières secondes avec sur le côté droit Guillermo Varela qui tente de combiner avec Rodrigo Bentancur. On fait le tour de cette défense très regroupée. On est à 30 mètres du but de Vosinha. On écarte à gauche maintenant avec toujours Sanabria qui tente de centrer. C'est renvoyé par la tête de Dini, le joueur d'Albataé aux Émirats Arabes Unis. Les toutes dernières secondes ici à Miami avec ce ballon maintenant qui est de nouveau dans les pieds uruguayens, le dernier centre peut-être, et le deuxième but pour la Céleste dans le temps additionnel.
C'est
dur pour
but.
Le Cap-Vert. Agustin Canobio, l'attaquant de Fluminense, pour sa première titularisation en Coupe du Monde avec l'Uruguay, vient tromper Vosinha. C'est bien joué avec un centre de la droite, la remise de la tête et du plat du pied droit. Agustin Canobio donne l'avantage à la Céleste, 2-1, et la mi-temps est toute proche.
Bon, j'ai l'impression que c'est quand même assez logique parce que les Uruguayens
ont c'est logique, ils ont vraiment dominé. Mais le but, j'ai pas bien compris l'action. C'est une remise de la tête. J'ai l'impression que le ballon allait. Je veux revoir ce but. Hein.
Ouais. On va le revoir ensemble. En tout cas, Agustin Canobio, lui, il a bel et bien marqué, l'ancien joueur de Peñarol, l'ancien joueur de l'Atlético Paranaense. Ça part donc de la droite
remise.
Avec
c'est une très belle action d'ailleurs, belle remise de la tête, plat du pied pour finir. C'est moi qui avais mal vu. Belle action.
Sosie d'Enzo Crivelli. Enzo Crivelli.
Et on sent quand même, je sais pas ce que t'en penses Jérôme, mais la touche Bielsa, c'est que historiquement l'Uruguay a pas toujours joué en voulant prendre le jeu à son compte en étant protagoniste. Là clairement ils veulent l'être quand même, ils essayent de récupérer le ballon très vite, ils se projettent assez vite. Il y a quand même une patte Bielsa dans cette équipe là maintenant. Elle a pas des qualités énormissimes, hein. Il y a pas des grands joueurs dans cette équipe, mais elle y va, elle presse, elle veut jouer quoi.
Elle mise plus sur des schémas de passe, effectivement typiques de ce que propose Marcelo Bielsa, plutôt que sur des individualités capables de faire la différence en un contre un. Parce que Maxi Araujo au Sporting, Agustin Canobio à Fluminense, Federico Vignas au Real Oviedo, il ne joue pas dans les plus grands clubs. C'est plus du calibre, on le sait, de Cavani ou de Luis Suarez, bien évidemment, qui sont les deux meilleurs buteurs de l'histoire de la Céleste. Les dernières secondes ici à Miami de cette première période.
Même derrière, ils avaient leur charnière de feu, la charnière béton. Ils sont plus faibles à peu près dans toutes les zones de jeu.
José María Jiménez, c'est ça, et Diego Godin.
Ouais, voilà, cette charnière-là, on parle de la
dernière. Il y a Lugano qui est en tribune, Daniel.
On parle de la Coupe du Monde 2018 où il joue le quart de finale contre la France, quoi. Non, huitième ou quart? C'est quart. Contre la France.
Quart de finale.
Oui.
Quart de finale.
Et demi contre la Belgique, oui. Et où l'Uruguay, oui, puisqu'ils avaient éliminé le Portugal, où ils avaient une très très grosse équipe à ce moment-là, oui.
Bon, ça joue encore, là, les dernières secondes. Tu vois, ça se poursuit. L'arbitre norvégien Espen Eskås qui
rappelle que le temps additionnel c'est minimum et que l'arbitre peut laisser le temps qu'il estime nécessaire s'il y a eu selon
voilà,
lui
comme il y a eu un but il va rajouter forcément au moins
exactement
minute. Ouais, et puis il y a eu l'histoire avec le joueur qui a le ballon dans les pieds en l'occurrence Telmo Arkanjo qui a retardé aussi la reprise du jeu. Donc on est à 8 minutes déjà de temps additionnel et l'action qui se développe sur le côté droit de Buzyn pour l'Uruguay face au Cap-Vert. Un dernier ballon capté par Fernando Muslera. Et est-ce qu'il va siffler l'arbitre? Toujours pas. Non, si, ça y est, c'est la mi-temps. Okay. Dans la moiteur de Miami, 2-1 pour l'Uruguay face au Cap-Vert qui avait pourtant ouvert le score.